Nous recevons aujourd'hui M. Claude Jopin. Il est né le 22 mai 1953. Il est diplômé de l'École des mines du Massachusetts Institute of Technology et il est docteur d'État en sciences physiques. Actuellement, il est professeur des universités de classe exceptionnelle à l'Université Denis Diderot, Paris 7, et directeur de l'Institut de physique du globe à Paris. Donc, il est spécialiste de questions telles que la dynamique des fluides géophysiques, la structure et l'évolution thermique des continents, les phénomènes convectifs dans la Terre, la physique des systèmes magmatiques, la physique des éruptions volcaniques. Il a reçu de nombreux prix. Il a écrit l'ouvrage de vulgarisation suivant « Les volcans » aux éditions Flammarion, collection Domino, en 1998. Il a apporté une contribution dans un ouvrage collectif qui s'intitule « La physique et la Terre », publié chez Belin CNRS Éditions en l'an 2000. Et il a participé à de nombreuses émissions de radio et de télévision de vulgarisation scientifique telles Archipel Science, Verrou et Voix Nouvelle sur France Culture, ou bien L'Aventure des Sciences sur la 5e chaîne, ou bien encore Archimède sur Arte.
Merci, bonsoir. Je remercie d'être venu aussi nombreux. J'espère que vous n'avez pas retardé votre départ en vacances pour cette conférence. Alors, je vais vous parler des volcans, comme prévu. Vous savez que les hommes étudient les volcans depuis très longtemps. En voilà un. Les volcans, on les connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, le premier événement géologique qui a été observé, décrit dans le détail, c'est une éruption volcanique. C'est l'éruption du Vésuve qu'avait décrit Pline l'Ancien et que Pline le Jeune a transcrit. Ça s'est mal terminé, mais c'est un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, les volcans, on les connaît assez bien, mais ce que je vais vous dire ce soir, c'est qu'on essaye maintenant de les comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Ça veut dire identifier les mécanismes qui sont mis au jeu. Mais comprendre, c'est aussi savoir quoi mesurer. Lorsque vous êtes devant une éruption volcanique, c'est très beau. Donc la simple observation est utile, mais il faut aussi mesurer des paramètres divers et variés, comme les vitesses, comme quoi mesurer, ça demande de comprendre. Je vous montrerai un petit peu ce que l'on sait à l'heure actuelle sur les volcans, en vous montrant à chaque fois comment on l'a su. Donc j'essaierai de faire la part des choses entre ce que l'on sait, puis ce que l'on ne sait pas, et puis comment on a réussi à savoir ce que l'on sait. Je vous montrerai aussi que pour comprendre un système volcanique, il ne faut pas simplement s'attacher à un seul volcan. D'une part parce qu'un volcan, c'est la partie émergée de tout un système, mais on ne peut pas comprendre ce volcan si on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a en dessous. Et puis évidemment, ce qu'il y a en dessous, c'est très peu visible. Donc pour aller chercher ce qu'il y a en dessous, il faut aller ailleurs. Donc le travail de volcanologue, c'est un peu le travail de quelqu'un qui reconstitue un puzzle. Et les pièces du puzzle, elles ne sont pas dans une seule boîte, elles sont réparties à travers le globe. En allant chercher, par exemple, des dépôts d'éruption anciennes, on peut comprendre certains mécanismes que l'on ne peut pas analyser aujourd'hui. En allant regarder des terrains encore plus anciens, on peut avoir accès à la plomberie figée qui était plusieurs kilomètres sous nos pieds, sous un volcan actif à l'heure actuelle. Donc le travail de volcanologue, c'est un travail qui l'amène à travers le monde, dans différentes régions, et puis même parfois dans des terrains assez anciens. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des magmas? Vous savez que vous voyez des éruptions volcaniques, c'est spectaculaire, beaucoup de lave sort. La lave, qu'est-ce que c'est? C'est de la roche qui est en fusion. Est-ce que cette lave est sous nos pieds en permanence? Est-ce qu'à l'heure actuelle, quand je vous parle, il y a de la lave sous mes pieds? Non. La lave, elle est produite de manière continue en certains endroits du globe, en certains endroits très particuliers. Et donc les volcans, ce sont des symptômes de surface de phénomènes bien plus profonds. Alors pourquoi on sait ça? D'une part parce que depuis que la Terre est formée, s'il y avait du magma au départ, il aurait refroidi depuis bien longtemps. Et d'autre part, on sait que les volcans ne sont pas répartis n'importe où dans le globe. Alors qu'est-ce qui fait le magma? Alors ici, je vous montre un graphe qui vous montre la profondeur dans la Terre en kilomètres. Et puis la température ici qui est en abscisse, dans cet axe-là. Et les roches, ce sont des, comme tout corps physique, ça fond. Mais la température de fusion des roches, ça varie énormément avec la pression ou ici avec la profondeur. La pression varie énormément dans la Terre. C'est que la pression, c'est le poids de ce qu'il y a au-dessus. Bon, nous sommes sous l'atmosphère, c'est pas trop lourd, c'est du gaz. Quand vous rentrez dans la Terre, vous vous retrouvez avec des roches au-dessus de vous et c'est beaucoup plus lourd. Donc ici, la pression varie énormément et la température de fusion, elle croît avec la pression. Donc dans la Terre, C'est ce que j'appelle ici la courbe de Solidus, ce terme un peu barbare, ça veut dire le point de fusion tout simplement. Il augmente avec la profondeur. Bon, à l'heure actuelle dans la Terre, les températures, on les estime à peu près dans ces eaux-là, 1400 degrés à peu près à 300 km de profondeur. Donc vous voyez qu'on est au-dessous de la courbe de fusion. Donc ici, la Terre à cette profondeur-là, elle est solide. Seulement, la Terre, elle est mise en mouvement, parce que la Terre refroidit, on en parlera un petit peu plus après. Comme elle est mise en mouvement, eh bien, il y a des parties qui descendent et des parties qui remontent. Lorsqu'une roche qui est à cette profondeur-là remonte, eh bien, elle va remonter suffisamment vite pour être quasiment isotherme, la température ne va pas beaucoup bouger, et vous voyez que ça va l'amener à croiser la température de fusion lorsqu'elle remonte. On parle de fusion par décompression. Donc dans la Terre, on ne fond pas les roches en les chauffant, on fond les roches en les faisant remonter de la profondeur. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y a un volcan, en général, il y a des mouvements en dessous. On ne peut pas faire de magma sans faire bouger la Terre. Alors les volcans, ils ne sont pas n'importe où dans le globe. Je vous montre ici un schéma qui vous montre comment l'intérieur de la Terre est mis en mouvement. La Terre bouge, c'est ce qu'on a appelé la tectonique des plaques. Ça a fait l'objet d'une conférence il y a quelques jours. Mais grosso modo, ce qui se produit, c'est que la Terre refroidit. Donc la partie superficielle de la Terre qui est froide, eh bien, elle est dense. Et comme elle est froide, elle s'enfonce dans la Terre. C'est ce que l'on voit ici dessiné dans ces deux zones-là. On appelle ça des zones de subduction. Les géologues aiment toujours donner des termes absolument barbares à des phénomènes assez simples. Alors, ça s'appelle comme ça. Bon, ça s'enfonce. Mais puisqu'il y a la matière qui s'enfonce et qu'il n'est pas possible de tout tasser en profondeur, il faut que ce mouvement descendant, ces masses que l'on met à l'intérieur de la Terre, soient compensées. Il y a donc des mouvements ascendants. Ces mouvements ascendants, en général, ils sont localisés sous ce qu'on appelle des dorsales océaniques, c'est au beau milieu des océans. Et là, eh bien, par le principe que je vous ai expliqué, les roches fondent. La plupart des volcans qui sont actifs sur notre planète sont au fond des mers. Il y a plus de 90% des volcans terrestres actifs qui sont en fait sous les mers et donc en dehors de notre observation directe. Il y a d'autres volcans qui sont les volcans qui sont au droit ici des zones de subduction. L'exemple typique d'une zone de subduction, c'est le Japon. Ça peut être aussi de l'autre côté la cordillère des Andes. Il y a aussi des volcans. Là, ce qui se produit, c'est que c'est un phénomène un petit peu plus compliqué. Là, la matière descend. Vous me direz, mais vous venez d'expliquer que c'est en montant qu'on fond. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, près de la surface, eh bien, c'est sous l'eau. Les roches sont hydratées et le point de fusion des roches, eh bien, ça s'abaisse avec la température. Donc, une roche qui est solide ici, mais chaude, si vous lui mettez de l'eau dedans, eh bien, elle va se mettre à fondre. Alors, ce qui se produit ici, c'est donc la matière s'hydrate et puis lorsqu'elle s'enfonce, eh bien, elle est réchauffée et elle va se mettre à fondre aussi. Donc, des deux côtés du cycle, en montée et en descendant, vous avez des phénomènes de fusion, mais qui sont associés à ces mouvements qui agitent l'intérieur de la Terre. Il existe d'autres types de volcans, mais ils sont tous associés à des mouvements profonds. Donc, les volcans ne sont pas n'importe où, et puis ils sont le symptôme de mouvements beaucoup plus profonds. C'est donc finalement le petit pustule de surface qui nous indique qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est le symptôme d'une maladie bien plus grave que la simple éruption volcanique. Donc je vais vous emmener maintenant à travers un système volcanique. Qu'est-ce que c'est qu'un système volcanique? Eh bien, c'est une plomberie remplie d'un liquide un peu bizarre et puis d'un peu de gaz aussi. Alors je vais vous parler d'une part pourquoi parler de système volcanique. Je vais vous parler des matériaux, parce qu'une éruption volcanique, ça met en jeu un certain type de matériaux, c'est pas n'importe quoi, les laves et les magmas sont des liquides bien particuliers. Quels sont les mécanismes mis en jeu? Et puis je vous donnerai un petit exemple de physique pour vous montrer comment est-ce qu'on fait de la volcanologie à l'heure actuelle. La volcanologie à l'heure actuelle, c'est pas simplement regarder un volcan, c'est le mesurer, c'est aussi le reproduire par soit des modèles en laboratoire, soit des calculs plus ou moins sophistiqués avec des outils de calcul plus ou moins complexes. Je vous montrerai qu'il faut faire appel à toutes ces composantes, l'observation sur le terrain, des mesures en laboratoire, et puis une théorie physique qui permette de vérifier que les principes que l'on a mis en avant sont bien les bons. Alors le système volcanique. Alors, je donne un schéma assez grossier. Il y a une source de magma en profondeur, c'est en général au mouvement profond dont je vous parlais. Et puis, ce magma, je vous montrerai pourquoi, il grimpe, et puis il se met à se stocker dans un réservoir. Donc un système volcanique, c'est un réservoir. C'est un réservoir qui peut prendre un assez gros volume. Vous pouvez stocker plusieurs centaines de kilomètres cubes de liquide dans un réservoir volcanique. Il y a un conduit éruptif qui connecte ce réservoir à la surface. Et en général, il y a aussi un édifice. Donc vous voyez que le système volcanique, c'est une espèce de plomberie, ici schématisée de manière extrêmement grossière. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas qu'un seul réservoir, il peut y en avoir plusieurs. Et ça, c'est tout l'objet de certaines de nos recherches à l'heure actuelle, c'est de préciser la géométrie et puis les dimensions de ce système de plomberie souterrain. Alors, je vous ai expliqué comment on savait qu'il y avait une source de magma en profondeur. Ça, c'est important parce que cette source de magma, elle est associée à des mouvements qui agitent la planète dans son ensemble. Donc, c'est une source qui joue à très grande échelle de temps. On ne met pas en mouvement la Terre comme ça. Donc, sous un volcan, il y a une source qui fournit du magma de manière plus ou moins continue, en général assez continue. Et vous savez aussi que les éruptions à la surface, elles ne sont pas continues. En général, il y a une éruption, puis il y a une période de repos et ça recommence. Mais ça, c'est le réservoir qui permet d'expliquer ce phénomène-là. Ce réservoir, c'est une zone tampon qui permet d'accumuler les laves avant de les relâcher. L'autre raison pour laquelle on sait qu'il y a un réservoir de magma, c'est que lorsque vous regardez un volcan, en fait, un volcan donné n'émet pas toujours les mêmes laves, il émet plusieurs types de laves, et de manière régulière, vous voyez qu'au cours de son histoire, le volcan émet des laves dont la composition chimique change. Donc il faut quelque part en profondeur un réservoir chimique qui évolue, qui fait des réactions chimiques, pour permettre de produire ces magmas différents au cours du temps. Ce réservoir, c'est celui qui permet ça. Il faut avoir un gros volume de magma qui va petit à petit évoluer au cours du temps. L'évolution se produit tout simplement sous l'effet du refroidissement. Un magma en profondeur s'est mis au contact de roches plus froides, donc il se met à cristalliser. Et lorsqu'il cristallise, il change de composition. L'autre raison pour laquelle on sait qu'il y a des réservoirs, c'est que dans certaines éruptions, on forme des caldeiras. Alors, voilà ici une caldeira. Un volcan en Alaska dont le nom est absolument imprononçable, mais ici c'est une dépression, vous voyez, qui a un rayon d'environ 15 km, donc c'est pas rien, et c'est le toit du réservoir qui s'est effondré lorsque le volcan était en train de vidanger le réservoir. Donc évidemment, pour faire une telle vidange, il faut qu'il y ait un réservoir, sinon ça n'a aucun sens. Donc évidemment, ça nous permet d'avoir accès aux tailles en section horizontale du réservoir. Tout le problème est d'avoir accès à la troisième dimension, quelle épaisseur avait ce réservoir, et ça on ne sait pas. Et enfin, on sait rarement le déterminer. Bon, je vous parlais du réservoir. Un volcan, ça connecte le réservoir à la surface. C'est un conduit éruptif. Alors, je vais vous montrer un conduit éruptif. Alors, voilà une belle éruption à Hawaï. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une fontaine de lave. Ça peut projeter des laves jusqu'à parfois plusieurs centaines de mètres de hauteur. Mais le conduit qui émet ça, on peut aller le voir, c'est quelques heures après ce type d'éruption, on peut aller regarder parce que c'est très reproductible. Et voilà la bouche éruptive. Alors l'échelle, on ne la voit pas bien ici, mais grosso modo, un conduit comme ça, ça fait 15 mètres de large. Donc les conduits, on les voit à la surface. Notre gros problème, c'est qu'on n'a accès qu'à la dimension de surface. Personne n'est assez fou pour descendre à l'intérieur, sachant qu'ici, ce que vous voyez en rouge est à 1200 degrés. Donc les conduits existent, on en connaît les dimensions, mais on ne connaît pas les dimensions en profondeur. Alors évidemment, reste l'édifice, je ne vous parlerai pas de l'édifice, vous avez souvent vu des photos de volcans. Un édifice, ça joue un rôle important pour deux raisons. D'une part, c'est parce que c'est un ensemble assez instable, donc souvent, certaines éruptions conduisent à déstabiliser l'édifice, et donc une partie des produits et du danger que fait une éruption, c'est les fragments de l'édifice lui-même qui viennent s'effondrer sur vous. Donc c'est un rôle important pour évaluer les dangers associés aux éruptions volcaniques. L'autre raison, c'est qu'un édifice, comme c'est une succession de laves, une succession de cendres qui se sont accumulées progressivement, c'est extrêmement poreux, donc c'est gorgé d'eau. Et l'eau qui circule dans un édifice, lorsque vous la portez à haute température, ça peut se vaporiser et créer des petites explosions qui peuvent parfois être très dangereuses. Donc un édifice joue un rôle important, mais je ne reviendrai pas là-dessus ici. On pourra considérer que c'est un avatar de petite ampleur par rapport au phénomène magmatique plus profond. Donc le système volcanique, vous voyez, c'est cette plomberie. Alors, on n'en voit que très peu de choses, c'est un peu comme le chapeau du Mexicain, vous êtes sur un arbre, un Mexicain en train de dormir, vous voyez que le chapeau, il faut deviner ce qu'il y a en dessous, et c'est ça le problème que les volcanologues ont à résoudre. Alors les matériaux volcaniques, alors qu'est-ce que c'est que les matériaux impliqués? Bon, il y a des tas de noms barbares. Donc les laves, ce sont des silicates fondus, c'est des roches fondues. Vous en voyez souvent, les verres que vous connaissez peut-être, ce sont des silicates fondus, ce sont des magmas. Il y a des éruptions volcaniques qui crachent de très beaux verres, qui sont connus depuis l'Antiquité. Alors, ces silicates fondus, en fait, c'est de la silice, en gros. Les magmas les moins riches en silice, ce sont les basaltes. Ça contient à peu près 48% de silice. c'est pas beaucoup. Les magmas les plus riches en silice, c'est 77% de silice. Alors, ils portent des noms. Les moins riches en silice, c'est les basaltes. Les plus riches en silice, c'est les rhyolites. Et puis, il y a les termes intermédiaires, sachant que, évidemment, le complément dans la composition des magmas, ben, c'est fait de tas d'éléments comme l'aluminium, le potassium, le fer, le magnésium et d'autres éléments divers. Mais ce qui fait la caractéristique des silicates, c'est leur extrême variation de propriétés physiques. Et on le sait, dans l'industrie du verre, ben, le verre, c'est toujours de la silice fondue. C'est du sable, vous prenez du sable, puis vous le faites fondre, et puis vous faites des très beaux verres. Mais selon des ajouts de quantité infime de tel ou tel élément chimique, vous allez produire des verres de qualité extrêmement différente, certains qui résistent à des impacts extrêmement violents, d'autres qui ont d'autres propriétés diverses et variées, des parois de four, etc. Donc les verres ont des propriétés extrêmement variables, et c'est ça qui fait toute la richesse des éruptions volcaniques, c'est que lorsque vous passez d'un basalte à une rhyolite, donc les deux termes ici de cet éventail chimique, eh bien la viscosité, alors je vous exprime ce que la viscosité, varie d'un facteur 10 puissance 12, ça veut dire 1 million de millions. Donc entre un basalte et une rhyolite, eh bien vous avez autant de différence qu'il y a par exemple entre un glacier qui s'écoule et puis l'eau d'une rivière. C'est une variation de propriété physique énorme. Alors, la viscosité, qu'est-ce que c'est ? C'est la propriété physique qui mesure la facilité qu'a un liquide de s'écouler. Vous savez que quand vous mettez sur une table de l'eau ou de l'huile de cuisine, ça ne s'écoule pas à la même vitesse, même si vous versez à partir d'une bouteille qui est identique dans les deux cas. Donc ce paramètre-là, c'est la viscosité. Donc entre l'huile de cuisine et l'eau, il y a à peu près un facteur 100. Donc l'huile de cuisine, c'est à peu près 100 fois plus visqueux que l'eau. Vous imaginez maintenant que entre la rhyolite et le basalte, vous avez 1 million de fois plus visqueux. Donc évidemment, les comportements sont complètement différents, les vitesses sont complètement différentes. L'autre chose importante ici, c'est la densité. La densité, c'est la masse volumique, si vous voulez. Eh bien, elle varie considérablement aussi. Alors considérablement, ce sont des chiffres ici qui sont beaucoup moins variables que ceux pour la viscosité, mais 2,7 pour le basalte, jusqu'à 2,3 pour la rhyolite. Ces chiffres-là sont importants, parce que la densité, c'est ce qui permet de savoir si les magmas sont plus ou moins denses que les roches qui les entourent. Les trois quarts des roches, ça a une densité moyenne d'environ 2,7. Donc vous voyez que tous les magmas ici, ils sont plus légers que les roches qui les entourent. Et on verra que ça joue un rôle très important. Donc voilà les matériaux, c'est des silicates. Alors ces silicates, comme tous les liquides, ils peuvent prendre des volatiles en solution. C'est comme pour faire de l'eau Perrier ou du champagne, vous pouvez mettre du CO2 dans tous ces liquides-là. Et pour le mettre, vous le mettez sous pression. C'est pour ça que votre bouteille de champagne, évidemment, est faite d'un verre extrêmement épais. Et puis, que vous savez c'est bien que si vous la débouchez très mal, eh bien, ça se met à dégazer. Et parfois, vous pouvez faire même une éruption de champagne. Ça coûte très cher. Alors, la solubilité, ça mesure la quantité de volatiles qu'on peut dissoudre dans un liquide. Et c'est une solubilité qu'on mesure donc ici, tout simplement, en pourcentage en poids. Ça veut dire que dans un kilo de silicate, vous allez pouvoir mettre ici par exemple 1% en poids d'eau. 1% en poids, donc vous voyez que ça fait, dans un kilo, ça fait 10 grammes, c'est pas beaucoup. Mais vous voyez que cette fonction solubilité, elle croît avec la pression. C'est intuitif, hein, plus vous avez de la pression, plus vous pouvez mettre du volatile dans votre liquide. Donc ça joue un rôle extrêmement important parce que les roches en profondeur, lorsque vous les fondez, ben, elles sont à forte pression. Donc il y a des pressions par là, donc vous pouvez mettre pas mal d'eau là-dedans. Donc un magma, en général, ça contient des quantités importantes d'eau. Alors comment est-ce qu'on le sait ? Ben, d'une part, on sait qu'on peut le faire. Cette courbe de solubilité, elle est faite en laboratoire. Vous prenez une roche, vous la fondez, vous la mettez dans un petit échantillon, dans un petit conteneur qui tient la pression, et puis vous la mettez en fond avec de l'eau, puis vous mesurez la quantité d'eau que vous pouvez mettre dedans. Alors évidemment, il faut faire ça à 1200 degrés, à des pressions fortes, mais ce n'est pas quelque chose qui est difficile en principe. C'est difficile en pratique, mais pas en principe. Donc on sait qu'on peut mettre de l'eau dedans. On sait d'autre part que lorsqu'il y a des éruptions extrêmement violentes, ça projette des bouts de verre, qui sont des bouts de verre qui viennent des profondeurs, qui n'ont pas eu le temps d'être remobilisés par l'éruption. Donc vous avez des fragments de tout le système de plomberie volcanique qui est éjecté à la surface. Donc ces fragments-là vous renseignent sur l'état qu'avait le liquide magmatique en profondeur, et vous pouvez l'analyser, et vous voyez qu'il y a de l'eau en solution dans ces petits bouts qui ont été éjectés. Donc on sait qu'il y a de l'eau. On sait aussi qu'il y a d'autres phases gazeuses, il y a du dioxyde de carbone, il y a du soufre, il y a plein d'autres choses, des halogènes et des tas de choses comme ça, mais le volatile principal, l'espèce volatile principale, c'est l'eau. Vous pouvez, typiquement, un magma, ça contient quelques pourcents en poids d'eau. Alors, on le sait, ça, Parce que lorsque vous regardez une instrument mécanique, alors cette photo n'est pas très claire. Bon, je vous montre ici un bout de mousse basaltique. Vous voyez qu'ici, il ne reste que quelques... Vous pouvez deviner ici ce qu'on appelle une réticulite. C'est-à-dire que c'est simplement le reliquat d'une mousse qui a été figée lorsqu'elle a été éjectée dans l'atmosphère et trempée dans le contact avec l'atmosphère froide. Et vous voyez ici, il ne vous reste que simplement les petites tubules de verre qui étaient entre les bulles de gaz qui étaient piégées. Donc ici, vous avez typiquement plus de 98% en volume de gaz, c'est les bulles, et puis il y a très peu de liquide entre les deux. Donc ça, c'est une autre preuve qu'il y avait beaucoup d'eau et de... dans le système. Alors comment est-ce qu'on voit les propriétés des laves ? C'est très simple, vous regardez les laves, voilà une lave basaltique, c'est une éruption qui est sur le volcan Kilauea de Hawaï. Ça fait des rivières, et les vitesses des rivières de basalte, ça peut dépasser les 40 km/h, ça dépend de la pente aussi, mais ça fait des petites rivières, c'est très fluide et ça va très vite. Le même type de système de plomberie qui vous éjecte des magmas plus visqueux, comme une rhyolite. Voilà ce que ça donne à la surface. Donc ça, c'est quelque part dans la cordillère des Andes. Cette espèce de tas qui vous paraît un tas de pierres, non, c'est un petit dôme, c'est une petite galette de rhyolite. Pourquoi c'est une galette ? Parce que la rhyolite, quand elle sort, elle est tellement pâteuse que ça fait comme le dentifrice que vous sortez de votre tube, ça vient s'étaler assez mollement à la surface, et ça peut s'accumuler sur des hauteurs de plusieurs centaines de mètres. Mais vous voyez que ça ne donne pas du tout la même morphologie, ça ne donne pas non plus les mêmes vitesses que les basaltes. Donc ici, la différence de viscosité, vous voyez tout de suite que ça va vous donner d'abord des différents modes de sortie de la lave du conduit volcanique, mais ça va vous donner aussi des vitesses différentes, des débits différents, et donc évidemment... une manière différente d'envisager les conséquences de l'éruption volcanique. Donc voilà, on a parlé des matériaux. Alors les mécanismes, comment est-ce que le magma monte à la surface ? On revient avec notre petit schéma ici. Je vous avais dit que les magmas ils sont moins denses que les roches qui les entourent, mais c'est comme quand vous mettez une goutte d'huile en bas d'une colonne d'eau, l'huile c'est plus léger que l'eau, ça monte et ça vient à la surface. Le principe est exactement le même, c'est la force d'Archimède qui propulse les magmas. Alors la force d'Archimède, elle s'accumule, en fait, lorsqu'il y a un grand réservoir comme ça, ce réservoir est potentiellement instable parce qu'il contient une masse de liquide qui est assez léger. Donc ce réservoir, il ne peut que se constituer jusqu'au moment où il va finir par être tellement volumineux qu'il finit par casser les roches qui l'entourent lorsque la pression est suffisamment forte. Et on reviendra sur des histoires de pression dans les éruptions volcaniques. Mais c'est la force d'Archimède qui fait tout. Le magma, il va remonter tout simplement parce qu'il est plus léger. Alors, ces variations de densité vous apparaissent comme faibles, mais il faut savoir qu'elles jouent sur des distances considérables. La distance qui sépare, par exemple, la bouche de sortie d'un volcan et puis son réservoir, ça se chiffre en plusieurs kilomètres. Donc, sur plusieurs kilomètres, cette différence de densité vous donne des forces considérables. Alors, le mécanisme qui permet au magma de sortir, c'est plus compliqué que l'exemple de l'huile et de l'eau que je vous donnais. Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas de l'eau qui entoure les magmas, c'est les roches, et les roches sont solides. Donc pour que le magma monte, il faut qu'il fracture les roches. Alors le mécanisme qui fait ça, c'est la fracturation hydraulique. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser, c'est utilisé couramment dans plein de mécanismes. La fracturation hydraulique, c'est lorsque vous injectez un liquide, même dans un solide aussi rigide et aussi résistant soit-il, vous allez pouvoir fracturer la roche ou le solide, simplement sous la pression de fluide. Donc ici, le magma, il va se frayer son chemin tout seul, il va casser les roches tout seul, sans avoir besoin qu'on l'aide. Ça veut dire que les volcans, ça n'est pas parce que les roches cassent que le magma monte, c'est parce que le magma monte que les roches cassent. Il faut inverser la logique. Alors comment est-ce qu'on sait ça ? Je vous montrerai des exemples. D'une part, lorsqu'on voit quand on est assis sur un volcan, la première chose qu'on cherche à savoir pour évaluer l'état du volcan, c'est de savoir si ou non il y a de la sismicité. Lorsque le volcan est actif, c'est que le magma va monter. Eh bien, s'il monte, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il fait la fracture hydraulique, et ça doit se signaler par des petits épisodes de fracturation. Il casse. Et ça, à chaque fois qu'on casse une roche, eh bien, on émet des ondes, ça fait des petits événements de fracturation qu'on est capable d'enregistrer. Donc la première chose qu'on voit lorsqu'un volcan se réveille, eh bien, c'est enregistrer ces phénomènes de craquement. C'est que le magma est en train de casser la roche qui l'entoure. Donc ça, c'est la première preuve qu'il y a ce mécanisme-là. La deuxième preuve, je vais vous en donner une preuve de terrain tout à l'heure. Donc, une fracture hydraulique, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une espèce de canal qui est rempli de magma. Alors le magma est sous pression, et puis il écarte les roches, et puis il les casse au front. Alors pour faire ça, regardez pas trop le schéma ici sur la droite, c'est un diagramme de pression. Il faut qu'il soit sous pression, mais il faut qu'il y ait une variation de pression entre la base et l'eau. Sinon, la pression toute seule, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un gradient de pression pour que le magma s'écoule. Et avec les forts gradients de pression qu'il y a, eh bien, la pression baisse significativement, et au toit de la fracture, il y a des gaz. Donc la deuxième chose que l'on voit après ce type de raisonnement, c'est que lorsque le magma commence à frayer son chemin vers la surface, eh bien, il doit y avoir un peu de gaz au sommet de la fracture. Une autre manière de voir les choses, c'est que le magma ne mouille pas bien un petit orifice. Quand vous cassez les roches, mais en bout de fissure, il n'y a quasiment rien. Donc vous ne pouvez pas faire forcer le magma à s'infiltrer dans des fractures qui peuvent avoir moins d'un millimètre. Donc là, il n'y a que le gaz qui peut passer. Donc il y a du gaz. Et donc la deuxième chose qu'on voit lorsque un volcan rentre en phase de réveil, eh bien, c'est qu'il y a des gaz magmatiques qui sortent. Donc on voit de la sismicité, c'est-à-dire que ça craque, et puis il y a des gaz qui se mettent arriver jusqu'à la surface, donc les gaz qu'on peut analyser et qui donnent bien le signe qu'il y a une éruption qui s'annonce. Alors ça, c'est le phénomène de fracturation hydraulique qui explique d'une part les craquements que l'on entend et que l'on perçoit sous un volcan, et d'autre part l'émission de gaz qui est bien courant. Alors, une fracture hydraulique, en voilà une, c'est au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un NEC. Alors, c'est un ancien volcan. Depuis un certain temps, ce volcan est inactif, les laves se sont mises en place dans des roches qui étaient assez meubles, l'érosion a fait son travail, ça a dégagé toutes les roches assez meubles, et il vous reste le magma qui est lui beaucoup plus résistant une fois qu'il s'est solidifié. Donc le NEC, c'est un ancien conduit d'éruption volcanique qui vous donne ici l'idée de ce que peut être une cheminée en profondeur. Vous voyez qu'ici les dimensions, ça se chiffre en quelques centaines de mètres. Et puis vous avez devant ici cette espèce d'épine dorsale, là, en fait c'est un mur, et vous pouvez regarder, si vous devinez sur la photographie qui est mal reproduite ici malheureusement, il y a un petit trait. Le petit trait, c'est le bout de magma figé que vous trouvez sur la crête. Alors ce bout de magma figé ici, typiquement c'est à quelques mètres de large, c'est une fracture hydraulique ancienne que l'on retrouve à la surface, dégagée par l'érosion. Donc ça, on en trouve partout, tout système volcanique ancien, dégagé par l'érosion, vous montre ces espèces de fractures de traits de crayon dans le paysage qui sont rempli de vieux magma fossilisé et refroidi. Donc voilà le mécanisme principal d'ascension du magma, c'est la fracturation hydraulique. L'autre phénomène important, c'est la décompression, puisque quand vous avez votre système volcanique, eh bien, le magma en profondeur, il est sous un grand poids de roche, il est donc en pression. Lorsqu'il va remonter, il se décomprime. Donc c'est exactement ce que vous faites lorsque vous débouchez vos bouteilles de champagne. Ici, le magma le fait tout seul, simplement en remontant. Sa pression va diminuer. Donc évidemment, lorsqu'il a des volatiles en solution en pression, je remonte cette courbe de solubilité. Donc typiquement, vous pouvez imaginer un magma avec 2% d'eau, vous êtes là. Je vais le montrer comme ça parce qu'on ne voit pas bien. Et vous êtes à cette pression-là, donc vous êtes ici stable, pas de problème. Vous remontez, la pression diminue et vous allez croiser la courbe ici. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus le dépasser parce que ça voudrait dire que vous allez diminuer la pression au-delà de ce qui est permis par la solubilité. Donc au-delà de ce seuil-là, eh bien, le volatile, il n'est plus possible de le mettre en solution dans le magma, la pression est trop faible, il se met à sortir sous forme de gaz. Donc lors de la remontée, lors de la décompression, les volatiles qui étaient en solution, eh bien, ils apparaissent sous forme de bulles. Et c'est ça qui vous donne cette petite mousse magmatique dont je vous avais montré une photographie tout à l'heure. Donc évidemment, entre un gaz et un magma, ça n'a pas du tout la même densité. Donc ce phénomène on appelle ça l'exsolution, c'est le contraire de la dissolution. Eh bien, le volatile sort de la solution, il apparaît sous forme gazeuse, ça correspond à une dilatation énorme. Et c'est ça, évidemment, qui fait tout le danger d'une éruption volcanique, c'est que c'est une véritable explosion qui se produit. Le magma se met à augmenter de volume considérablement. Voilà un très beau schéma, une parfaite éruption volcanique telle qu'un théoricien peut l'avoir. Et ça a deux avantages. D'abord, c'est que c'est impossible d'aller vérifier que le calcul est exact. Le deuxième avantage, c'est que c'est très joli. Mais on a quand même un certain nombre d'indications que ce n'est pas tout à fait idiot. En profondeur, vous avez donc un réservoir. Ça remonte, ça décomprime. Il y a de plus en plus de gaz. Au fur et à mesure que la pression diminue, il y a de plus en plus de gaz qui sort. Le gaz, non seulement, il y a plus de masse de gaz, mais en plus, il y a une pression plus faible, donc le gaz lui-même se dilate. Donc ce phénomène cumulé, l'augmentation de la quantité de gaz plus le fait que le gaz il a des pressions de plus en plus faibles, ça conduit à une dilatation catastrophique. Au bout d'un certain temps, c'est une véritable mousse qui s'écoule dans le conduit, une mousse dont je vous ai donné un exemple. Bon, les mousses qu'on est en train de faire s'écouler à très grande vitesse, ce n'est pas stable, ça casse. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle le phénomène de fragmentation. Cette mousse, tout simplement, se pulvérise et les petites bulles de gaz qui étaient isolées les unes des autres dans le magma, ben, elles finissent par éclater. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est un grand changement extrêmement important pour la nature même du phénomène. C'est qu'au lieu d'avoir un liquide qui s'écoule, c'est essentiellement un gaz. Le gaz, certes, est chargé de petites gouttelettes de magma, mais c'est surtout un gaz qui s'écoule. Évidemment, ça va beaucoup plus vite qu'un liquide. Donc, vous voyez qu'ici, dans le conduit volcanique, vous avez un changement de l'état de la matière qui s'écoule qui est considérable, qui est lié simplement au fait qu'au bout d'un certain temps, il y a beaucoup trop de gaz, et donc c'est surtout du gaz qui va sortir. Donc voilà pour les mécanismes. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Force d'Archimède, fracturation hydraulique, il faut casser les roches, on les déforme un petit peu, mais surtout on les casse, et puis on dilate considérablement. Alors évidemment, le résultat à la surface dépend de la quantité de volatile. Une lave qui est pauvre en volatile, eh ben, ça sort avec un petit peu de bulles dedans. Vous avez une coulée de lave avec des bulles. Bon, très bien. Ça vous donne des éruptions tranquilles qu'on appelle effusives parce que ça n'est pas explosif. C'est pas dangereux parce que ça ne s'écoule pas très très vite. C'est resté un liquide essentiellement. Si vous avez beaucoup plus de volatile en solution dans le magma en profondeur, lorsque ça arrive près de la surface, eh bien, ça éclate et ça vous donne essentiellement un gaz. Alors évidemment, le gaz s'écoule beaucoup plus vite. Donc ça, c'est une éruption de type qu'on appelle explosif, parce que ben, la phase gazeuse a fait exploser les petites bulles. Et donc, évidemment, ça s'écoule beaucoup plus vite, avec des débits beaucoup plus importants. Donc ces deux types différents d'éruptions sont tout simplement liés à la quantité de volatile qu'il y a en profondeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas mesurer à distance. Donc lorsque vous êtes assis sur un volcan, il vaut mieux faire attention, parce qu'on n'est pas sûr que la lave qui sort est riche ou non en volatile. Alors, une fois que la première est sortie, vous pouvez dire « ça va », mais au préalable, il faut mieux se méfier. Donc voilà, je vous ai montré ce que c'était qu'un système volcanique. Je vous ai parlé des mécanismes. Alors, j'ai essayé de vous expliquer comment on avait vu tout ça. Vous sachez que maintenant, ça se fait par le calcul, ça aussi. Alors, une éruption volcanique dans le calcul, ce n'est pas très beau. Je ne vais pas vous montrer un calcul parce que c'est laid. Et puis, une éruption volcanique, c'est beaucoup plus beau que tout calcul qu'on puisse faire. Mais il faut que vous sachiez que les éruptions que l'on peut observer, on peut effectivement les expliquer par le calcul. C'est-à-dire que les vitesses que l'on peut mesurer, les débits que l'on peut mesurer, c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on peut prédire par le calcul. Donc il n'y a pas de mystère de ce côté-là. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même quelques mystères qui restent à résoudre. Et je vais vous donner un exemple qui va me permettre d'une part de vous illustrer ce que c'est qu'une théorie physique pour une éruption volcanique. Et puis je vais vous montrer aussi que même lorsque les choses ont l'air assez simples, eh bien, ça peut être plus compliqué par la suite. Je vais vous parler des éruptions explosives, c'est-à-dire des éruptions qui font intervenir des magmas qui en profondeur étaient riches en phase volatile, donc à la surface, ça explose. Donc ce qui est projeté à la sortie du conduit volcanique, c'est un mélange de gaz et de fragments de magma. Donc voilà ici une photographie qui est une photographie à la sortie du Mont Saint-Hélène en mai 1980, qui a fait une très très belle éruption. C'est des éruptions comme ça, on les appelle les éruptions pliniennes, en l'honneur de Pline. Je vous dirai plus tard ce que c'est qu'une éruption plinienne dans le détail. Mais vous voyez qu'à la sortie du conduit volcanique, ce qui sort là, c'est une espèce de nuage, ça ressemble à un nuage de cendres, c'est bien le cas. Mais je vous avais dit tout à l'heure qu'un magma en solution, ça ne peut prendre que quelques pourcents d'eau. Bon, ben, en masse, à la sortie, cette eau, elle est sous forme gazeuse, mais ça ne représente toujours que quelques pourcents en masse. Donc le mélange qui sort du conduit volcanique, il est beaucoup plus dense que l'air. En masse, c'est essentiellement comme du magma. C'est 95% ou plus de magma, donc beaucoup plus dense que l'air. Il y a très peu de gaz finalement là-dedans en masse. Il y a beaucoup de gaz en volume, mais en masse, ce qui va déterminer la densité du mélange, c'est essentiellement du magma. Donc, vous voyez que ce qui sort, c'est projeté à très très grande vitesse, mais c'est dense. Donc, si rien ne se produit, ben, ça va retomber sur le sol, à la manière de quand vous avez un jet d'eau, vous pouvez vous amuser à arroser vos petits camarades, mais vous savez que si vous mettez le jet d'eau en l'air, vous n'allez pas aller très très haut, parce que l'eau est plus dense que l'air, elle retombe. Donc, plus évidemment, vous augmentez la vitesse de sortie de votre eau, plus vous allez haut, mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas projeter très très haut. Alors, ce qui se produit ici, c'est un peu plus compliqué, et ça, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous voyez que ce qui sort, ça sort à très très grande vitesse, c'est ce qu'on appelle un écoulement turbulent, c'est un écoulement qui est bien brassé. Il y a des tas de tourbillons qui agitent le mélange, mais ça agite non seulement le mélange, mais ça va permettre aussi d'ingérer de l'air environnant. Donc, lorsque ici, le mélange éruptif s'élève, petit à petit, il vient englober de l'atmosphère et il y a de plus en plus de gaz dans la colonne éruptive. Ça, évidemment, c'est un mécanisme qui va vous permettre d'alléger votre mélange. Plus vous vous élevez, plus c'est riche en gaz et donc plus c'est léger, tout simplement parce que l'éruption volcanique elle est en train de cannibaliser l'atmosphère qu'il y a autour. Donc ça, c'est un mécanisme qui va permettre éventuellement au mélange de devenir plus léger que l'air. Pourquoi plus léger que l'air ? Parce qu'il faut se souvenir qu'ici, ça sort à 1000 degrés. Donc l'air qui est ingéré par le système, il est chauffé, donc il devient très très léger. Donc c'est surplanté ici, voilà le jet volcanique, un mélange turbulent avec l'atmosphère. C'est pour ça que lorsque Pline le Jeune a décrit ce qu'avait vu son père avant de mourir, il a décrit sous la forme d'un pain parasol, c'est un pain qui s'évase vers le haut, parce que le mélange, eh bien, il prend de plus en plus de volume, donc il s'élargit. Alors ça, c'est un type d'écoulement qu'on connaît bien, et qui peut être reproduit par le calcul assez facilement. Alors lorsque ça se passe bien, eh bien, le mélange finit par s'alléger, il s'allège, et il va continuer de monter. Au lieu de retomber au sol comme l'eau de votre jet d'eau, eh bien, il est devenu plus léger, il est poussé par la poussée d'Archimède, comme une montgolfière, il va monter. Et ça, c'est ce qu'on appelle une éruption plinienne. Je vous montre ici une éruption plinienne vue depuis un satellite qui étudie l'atmosphère. C'est l'éruption qui a affecté l'éruption qui est située en Nouvelle-Guinée, près de Rabaul, un volcan très dangereux, bien connu. Et ce que vous voyez ici, c'est une photographie, alors vous ne voyez pas très bien, mais c'est une photographie qui vous montre qu'il y a un panache éruptif, dont vous ne voyez pas l'origine, mais c'est monté jusqu'à 25 km dans l'atmosphère. Ça. Vous voyez qu'ensuite, ce panache, comme ça ressemble un peu à un panache d'éruption, d'explosion atomique, ça finit par s'étaler, parce qu'in fine, vous allez tomber à des niveaux de l'atmosphère qui sont quand même plus légers, donc ça s'arrête de monter, et ça s'étale latéralement. Donc vous voyez cette forme caractéristique d'une colonne qui s'évase et puis qui vient alimenter un espèce de champignon qui s'étale latéralement. Ça, c'est une éruption plinienne et ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres dans l'atmosphère. Évidemment, ça a des conséquences extrêmement importantes sur l'environnement et puis sur le climat aussi. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Ça, c'est une éruption plinienne. Elle est telle que le mélange qui était dense à la sortie du conduit volcanique a fini par s'alléger et a monté tout seul sous la force d'Archimède. Bon, mais si le mélange se fait mal, ça retombe. Et ça retombe, c'est ce qu'on appelle une coulée pyroclastique. Alors les noms ne sont pas importants, pyroclaste c'est simplement pyro, c'est ce que ça veut dire, donc c'est des coulées pyroclastiques, c'est une coulée de gaz, et puis de fragments de magma, c'est chaud, et ça dévale les pentes, parce que c'est resté plus dense que l'air, donc ça s'effondre, ça coule comme une coulée de boue. Voilà ici une photographie qui vient du volcan Petit Krakatoa en Indonésie. Ici, vous avez une colonne éruptive que... Si je pouvais vous montrer ça tout en haut, vous voyez qu'elle va à quelques kilomètres maximum, et en dessous, ça retombe, et vous avez cette espèce de nuage qui est mal formé ici, qui est tout simplement la coulée qui dévale les pentes du volcan. Ça, c'est une coulée pyroclastique. Alors, en fait, ces deux éruptions-là, en fait, elles se ressemblent beaucoup. Si vous étiez assis à la sortie du conduit volcanique, ce que je ne vous souhaite pas, pas possible de voir une grande différence. C'est le même genre de vitesse. C'est apparemment des mélanges qui sont à peu près équivalents. Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire deux comportements très très différents? C'est très très sensible à la quantité de gaz. Donc un très léger changement de gaz, ça peut vous faire passer d'un régime à l'autre. Alors évidemment, les conséquences pour l'environnement de ces deux types d'éruptions n'ont rien à voir. C'est le même genre de débit, donc la même quantité totale qui est éjectée dans l'atmosphère, à très peu de choses près. Mais dans un cas, dans l'éruption plinienne, eh bien, vous allez répartir ça sur une très très grande surface, vous injectez ça dans notre atmosphère, c'est repris par les vents, les cendres finissent par se retomber. Et ça vous donne une retombée plinienne. Voilà ici la couche plinienne qui est... Quand vous allez à Pompéi, je suis sûr que ce n'est pas ça que vous voulez voir, mais si vous allez à Pompéi, eh bien, Pompéi a été enterré sous des cendres volcaniques et vous pouvez étudier un très beau dépôt plinien. Vous voyez ici un individu qui est en fait à... Vous êtes à quelques kilomètres du point de sortie du magma, c'était le Vésuve qui est au-dessus. Et ici, vous voyez que le dépôt plinien, c'est un dépôt... Vous pouvez d'ailleurs l'étudier, vous pouvez gratter. C'est d'ailleurs souvent... utilisé par des carriers qui viennent prendre ça pour faire du ciment, c'est un ensemble assez mal consolidé de petites ponces qui se sont simplement accumulées comme pluie. Ça vous donne donc des couches qui sont meules, et puis ça vous donne des couches qui ont une apparence assez régulière, parce que tout simplement c'est une accumulation régulière comme une pluie. Vous voyez aussi une autre chose ici, c'est que l'épaisseur n'est pas très importante, parce qu'il y a une quantité considérable de magma et de ponces qui a été éjectée. Seulement, cette quantité considérable a été répartie sur une très très grande surface. Donc ça vous donne des dépôts qui recouvrent des surfaces énormes. Donc la masse totale, elle est évidemment sur une épaisseur faible. Voilà ici une carte qui vous montre les dépôts de l'éruption de Santorin, qui a eu lieu à peu près en 1600 avant Jésus-Christ. Ce que vous reprendre ces courbes ici, ce sont ce qu'on appelle des isopaques, c'est-à-dire des courbes d'égale épaisseur du dépôt. Et vous voyez que le dépôt de l'éruption de Santorin, vous en retrouvez des traces jusqu'en Turquie. Donc ici, vous avez un chiffre qui c'est 10 cm d'épaisseur, 20 cm d'épaisseur. Plus vous vous rapprochez du volcan, plus c'est épais. Et 5 cm très loin, vous avez à plusieurs milliers de kilomètres de Santorin, vous allez retrouver des cendres de son éruption plinienne d'il y a un peu plus de 3000 ans. Vous retrouvez d'ailleurs aussi des cendres de l'éruption de Santorin dans les calottes glaciaires de l'Antarctique, lorsque vous allez regarder suffisamment profondément. Donc ici, vous voyez l'éruption plinienne, ça projette sur de très très grandes distances, et ça, c'est donc désagréable, parce que si vous êtes dessous, vous avez une cendre de son, de ponce, ce n'est pas très bon à respirer, mais ce n'est pas très très dangereux. Si l'éruption décide de passer dans un régime de coulée pyroclastique, là c'est beaucoup plus dangereux, parce que le même débit de matériaux, au lieu d'être réparti sur une très très grande surface et de retomber sous forme d'une gentille pluie, eh bien, c'est canalisé, c'est une coulée qui est, elle, canalisée par les vallées de votre édifice, et cette même quantité de magma, elle est concentrée. Et ça vous donne des dépôts de coulées pyroclastiques. Voilà ici une coulée pyroclastique du Vésuve aussi. Vous voyez qu'ici, il y a encore un être humain ici. Après l'éruption, il y a des êtres humains, deux pendant l'éruption, mais on les voit moins bien. Vous avez ici un dépôt qui est beaucoup plus épais, qui est d'apparence beaucoup plus chaotique, parce que c'est une coulée qui a dévasté tout l'environnement, qui a cassé des bâtiments, qui a cassé les roches autour, et puis qui se dépose de manière extrêmement complexe. Ce n'est pas une gentille pluie qui vient simplement accumuler des couches très graduellement. Une coulée pyroclastique. Alors, Pline l'Ancien, vous savez qu'il est mort. Il est mort de cause non naturelle, même s'il était ancien. En fait, il faut savoir qu'il a été un peu imprudent. Il faut savoir aussi que ce n'est pas par courage qu'il est mort, ce n'est pas parce qu'il voulait regarder l'éruption. Pline l'Ancien, il avait deux problèmes. Le problème, c'est, numéro un, c'est qu'il était un peu corpulent, donc se déplacer, il fallait vraiment qu'il soit sûr que ça vaille le coup. La deuxième raison, c'est qu'il ne connaissait pas bien les mécanismes d'éruption volcanique. Donc lorsqu'il est allé regarder Pompéi, eh bien, l'éruption était dans un mode plinien, donc il y avait des cendres qui s'accumulaient. Il disait, oh, c'est désagréable, mais... il n'avait pas très envie de se déplacer, donc il a dit bon, je vais attendre. Après tout, il est allé se coucher. Et puis malheureusement, le volcan a changé en coulée pyroclastique. Et là, ça a tout dévasté. C'est ça qui l'a tué. Alors pour vous montrer que les théories marchent à peu près, voilà ici une courbe. C'est pas très bon, je vous prie d'excuser, mais c'est un des rares exemples où on peut tester la théorie en grandeur nature sur une vraie éruption. Les théories ont On n'aime pas trop les tester comme ça, parce que c'est toujours, ça ne marche jamais tout à fait bien. Avec une petite expérience de laboratoire, ça marche très bien. Là, c'est une expérience en vraie grandeur. Vous avez ici une colonne, la hauteur de la colonne éruptive, c'est-à-dire la hauteur dans l'atmosphère qu'atteint la colonne au-dessus du volcan, en fonction du temps. Et ça, c'est au Mont-Sainte-Hélène en mai 1980. Le Mont-Sainte-Hélène, eh bien, c'était très observé parce qu'on savait qu'une éruption allait se produire. Il y avait des tas de radars météo qui étaient dans le voisinage, qui ont pu mesurer en fonction du temps la hauteur de la colonne éruptive. Et c'est cette courbe qui vous est montrée ici. Vous voyez que l'éruption a démarré à peu près après 8 heures du matin. Et puis, il s'est monté à plus de 25 km dans l'atmosphère. J'avais dit que les éruptions pliniennes, ça va très très haut. Ensuite, c'est retombé. Et puis, ça a un peu fluctué avant de s'arrêter assez brutalement. Bon, les théories que l'on peut faire, eh bien, ça vous donne ces points ici, là, qui sont les carrés noirs. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une très bonne correspondance entre la prédiction théorique et l'observation directe. Alors, comment est faite l'observation, la prédiction théorique? La prédiction théorique, elle est tout simplement, on se cale sur le dépôt. On dit, tiens, voilà les caractéristiques du dépôt. Quels sont les paramètres éruptifs qui me permettent de reproduire ce dépôt? Et comme ça, on peut remonter jusqu'à la hauteur de la colonne. Et vous voyez qu'il y a un assez bon accord. Non seulement bon, en erreur, c'est dans la gamme d'erreurs des paramètres qu'on peut mettre dans le calcul, mais surtout, vous voyez que la tendance est la même. Quand ça monte pour le radar, ça monte aussi pour le calcul, et puis quand ça descend pour le radar, ça descend aussi pour le calcul, ce qui est quand même la moindre des choses si la théorie est valable. Donc, vous voyez qu'ici, on a un exemple de phénomène qui est assez subtil, dans lequel un volcan il peut changer de régime très brutalement, avec des conséquences évidemment tout à fait dramatiques pour l'environnement. Ce n'est pas du tout pareil d'être au voisinage d'une éruption plinienne ou au voisinage d'une éruption à coulée pyroclastique. Et puis, c'est surtout pas pareil dans la mesure où un volcan, en général, ça va alterner d'un régime à l'autre. Alors, pourquoi ça fait comme ça? Eh bien, voilà ici un diagramme. Alors, je vous prie de m'excuser pour ce genre de diagramme, mais lorsqu'on fait de la physique, on est forcé de reproduire ça sous la forme de graphe. Ici, vous avez le débit, c'est le débit massique en kilogrammes par seconde. Vous voyez qu'ici, 10 puissance 6, c'est 1 million de kilogrammes par seconde. Ça, c'est les éruptions les plus les plus modestes que l'on connaisse. D'ailleurs, c'est à peine, le théoricien en général ne considère même pas, c'est tellement petit que c'est rien du tout. 1 000 kg par seconde, c'est quand même pas mal. Les trois quarts des éruptions que l'on connaît, c'est entre 100 millions de kg par seconde et puis 1 milliard de kg par seconde. Vous voyez la puissance de ces éruptions, c'est considérable. Mais ce qui est important ici, c'est que ben, ça, c'est une échelle qu'on est capable d'établir par le calcul, puis aussi qu'on est capable de mesurer sur le terrain. Je vous parlais de comprendre les volcans, c'est savoir les mesurer. Ben, on sait mesurer ce genre de paramètres. Et puis, vous avez la quantité de gaz dans le mélange éruptif en pourcentage massique. Donc ici, 1% en masse, 2% en masse, 3% en masse. Et je vous ai dit que ça, on était capable aussi de le mesurer. Si on avait un bout de magma qui sortait suffisamment vite, il était figé, on pouvait avoir la quantité de volatile qui était dans le magma en profondeur. Eh bien, le calcul et la théorie de cet écoulement dans l'atmosphère vous dit qu'il y a une différence ici, très marquée, entre les deux. Et il y a un régime en haut qui est le régime de coulée pure glacique et le régime de colonne plinienne. Vous voyez que c'est normal. Si vous prenez un débit donné, eh bien, si vous avez peu de gaz, vous êtes en coulée pyroclastique, le mélange ben, il est dense, il retombe. Et puis s'il y a suffisamment de gaz, eh bien, vous allez franchir la première étape, ça va ingérer suffisamment d'air et puis ça va finir par passer. Donc il y a une première manière d'expliquer pourquoi les éruptions peuvent changer, c'est que la quantité de gaz change. Très bien, ça c'est possible. La deuxième chose qui peut se produire, c'est que le débit change. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, par exemple, supposé que c'est un seul et même magma, en général c'est le cas, hein, un volcan ça émet un type de magma donné pendant une éruption, eh bien vous êtes là. Et si vous êtes à faible débit, c'est la colonne plinienne, parce que le faible débit, ça va vous permettre aux volutes de bien ingérer du gaz avant que c'est le temps de grimper. Mais si le débit est trop fort, eh bien ça monte et ça retombe tout de suite. Donc ici, vous avez deux types de mécanismes qui peuvent vous donner une transition entre les deux régimes. Et ça, c'est prédit par le calcul. Alors, les différences, vous voyez que si vous êtes près de la transition, ben vous allez passer de l'un à l'autre sans arrêt, parce que les conditions d'éruption ne sont pas tout à fait stables. Donc ça explique pourquoi beaucoup d'éruptions n'arrêtent pas de passer de l'un à l'autre, et ça a été le cas, par exemple, du Vésuve. Bon, ça, ce genre de prédiction théorique, on peut maintenant le vérifier, mais ça a demandé beaucoup d'efforts, parce que d'une part, il fallait d'abord faire la théorie, et puis d'autre part, il fallait être capable de mesurer tous ces paramètres. Et avant de les mesurer, avant de savoir l'intérêt, il fallait avoir la question théorique derrière. Alors, ces théories-là vous permettent de faire des choses assez intéressantes, parce qu'un dépôt, ben, vous allez pouvoir l'interpréter. Un dépôt, ça a une histoire. Voilà ici le dépôt c'est le dépôt plinien du Vésuve. Et vous avez un volcanologue. En général, ils sont en short. Donc et l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il va gratter le dépôt plinien. Et c'est faiblement consolidé, donc c'est facile. Ce sont en général des gens flemmards aussi. Et vous allez pouvoir faire une histoire, comme c'est un dépôt qui est régulier, eh bien, plus vous vous élevez dans le dépôt, plus vous avez accès aux retombées tardives, et donc vous allez pouvoir faire une chronologie des événements. Donc lorsque vous avez un dépôt comme ça, en regardant les différentes couches, vous avez que les couches ici, parfois elles sont séparées par des petites cassures, il y a un changement éruptif qui se marque par une couche de nature différente, vous remarquez, c'est le dépôt ici est zébré horizontalement, ce sont des couches intermédiaires qui montrent que le volcan il a hésité un peu, puis pof, il y a un nouveau dépôt qui s'est rebondi dessus. Donc ça c'est le dépôt l'éruption qui a tué Pline. Vous voyez qu'il y a plusieurs épisodes différents. Tout ça, vous pouvez ensuite reconstituer la chronologie détaillée et on peut montrer d'ailleurs que ça correspond parfaitement à la description qui a été faite par Pline lui-même, enfin Pline le jeune, puisque lui, il en est revenu et il s'était mis à distance respectueuse du volcan. Donc on peut avoir une chronologie en heures. On peut montrer que l'éruption qui a tué Pline, elle est par là. Et on sait que c'est au bout de quelques jours après le début de l'éruption du Vésuve. Donc là, on est capable, donc à l'aide de la théorie et puis de l'étude des dépôts, de savoir ce que l'éruption fait dans le temps. Alors évidemment, c'est extrêmement puissant parce que c'est facile à faire. Le volcan a fait son éruption, donc on est tranquille. Mais le deuxième avantage, c'est que des dépôts, il y en a plein dans le monde, et donc on peut en étudier beaucoup. Alors que les éruptions actives, pendant la durée de vie d'un volcanologue, quel qu'il soit, même s'il est en excellente santé, il peut peut-être en espérer voir une dizaine, une vingtaine, alors que des dépôts, il y en a quelques milliers. Donc si on est capable d'utiliser les dépôts, on est capable d'avoir beaucoup plus d'informations parce qu'on aura beaucoup de cas différents à étudier. Alors où en est-on en volcanologie ? Donc je vous ai fait un petit tour à travers ce qu'on faisait en volcanologie, j'espère que vous n'avez pas ennuyé, il y a peut-être moins de belles photos que ce que vous attendiez. Où en est-on ? Mais à l'heure actuelle, comme toujours, il reste beaucoup de questions à analyser. Les modalités de dégazage, c'est quelque chose qu'on maîtrise mal. D'une part, je l'ai dit, les éruptions n'arrêtent pas d'alterner entre des phases pliniennes et puis des phases de coulées pyroclastiques, mais ça s'explique beaucoup mieux par des légères variations de la quantité de gaz. Or, a priori, en profondeur, c'est le même magma. Il n'y a pas de raison que ça change comme ça en quantité de volatile. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où le magma quitte son réservoir et puis arrive à la surface? Eh bien, les roches ne sont pas parfaites. Elles sont percues de fractures diverses et variées. Donc, le gaz, il finit par sortir. Et il y en a une partie qui s'échappe du conduit volcanique et qui s'échappe du mélange. Donc, la quantité qui finit par sortir par la bouche éruptive, ce n'est pas tout à fait la quantité qu'il y avait en profondeur. Donc, évidemment, ça introduit évidemment un degré de liberté supplémentaire. L'éruption, elle va pouvoir faire des choses très différentes en fonction du fait qu'elle est capable d'éjecter ou non une partie de son gaz latéralement par le conduit avant de sortir à la surface. Donc, ça, évidemment, c'est un mécanisme qui est plus compliqué. On est en train de l'étudier parce qu'on a besoin de l'étudier. On sait que pour expliquer, par exemple, pourquoi le Vésuve n'a pas arrêté d'alterner entre des phases pliniennes et puis des phases de coulée pyroclastique, il faut absolument expliquer pourquoi la quantité de gaz bougeait. Et pour l'expliquer, il faut le prédire par le calcul, parce que ça, il n'en reste plus beaucoup de preuves à l'heure actuelle sur le terrain. La deuxième chose qu'on aimerait bien comprendre, c'est la fragmentation. Je l'ai dit, lorsque le magma remonte vers la surface, eh bien, il se décomprime, donc il se dilate, il y a de plus en plus de gaz, et puis ça finit par casser, les bulles de gaz finissent par éclater, donc ça va faire changer le mélange entre des bulles dans un liquide avec autre chose, c'est-à-dire un gaz qui porte des petits fragments, des petites gouttelettes de magma, ça c'est très différent. Et quand est-ce que ça se produit? Et puis dans quelles conditions précises ça se produit? Évidemment, c'est particulièrement fondamental parce qu'un liquide ou un gaz, ça ne s'écoule pas de la même manière. La fragmentation, on ne sait pas trop exactement dans quelles conditions ça se produit. Donc à l'heure actuelle, il y a beaucoup de recherches là-dessus qui se font sur ce mécanisme-là. L'autre chose qui nous occupe, c'est que une éruption, ça a une histoire. Ça évolue dans le temps, ça commence d'une certaine manière et puis ça change au cours du temps. Pourquoi? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce que lorsque vous allez intervenir sur le terrain et qu'un volcan rentre en éruption, il ne suffit pas de dire « il y a une éruption », ça se voit. Il faut savoir dire combien de temps elle va durer et puis quel type de danger ça représente. Donc ça, évidemment, ça demande de savoir comment est-ce qu'elle va évoluer dans le temps. Alors, par exemple, l'éruption du Mont Saint-Hélène, dont je vous ai montré une photographie, elle a démarré en mai 1980, mais elle s'est prolongée pendant plus de 9 ans. Donc une éruption, ça peut avoir une histoire extrêmement longue. Et lorsque vous allez dire aux populations « bon, il y a une éruption, vous revenez dans une semaine », c'est pas la même chose que leur dire « il y a une éruption, vous revenez dans 9 ans ». Et ça, évidemment, c'est ce genre de prédiction demande une connaissance bien plus fine de la quantité de magma qui est en profondeur et puis de la vitesse à laquelle vous êtes capable de l'évacuer. Donc les variations de conditions éruptives dans le temps, ça nous occupe beaucoup. Quels sont les paramètres qui permettent d'expliquer pourquoi certaines éruptions peuvent durer des dizaines d'années et puis d'autres durent quelques heures. Lié à ce problème-là, c'est la structure et les dimensions du système de plomberie. Je vous ai dit qu'un volcan, grosso modo, c'est un système de plomberie, un réservoir. On sait qu'il y a un réservoir, je vous ai donné un certain nombre d'indications, mais je ne sais pas ses dimensions, je ne sais pas la quantité de magma qui est contenue en profondeur. Si j'ai un tout petit réservoir, les éruptions, quelles qu'elles soient, elles ne peuvent pas évacuer une grande quantité de magma. Si par contre, j'ai un énorme réservoir, là, j'ai le potentiel pour des éruptions qui se prolongent pendant très très longtemps. Et bien, à l'heure actuelle, ces réservoirs-là, ils échappent à nos capacités de détection. Alors, pour des raisons assez perverses, on a des très, très beaux systèmes de détection de la structure du sous-sol. Ils sont très efficaces à très grande échelle. On voit très bien des choses à l'échelle de 100 km de large. Ils sont très efficaces à toute petite échelle, on voit très bien des choses assez petites, mais les champs magnétiques, c'est dans les dimensions intermédiaires, là où on voit mal. Donc un réservoir, c'est quelques kilomètres, et bien quelques kilomètres à 10 km de profondeur, on voit mal, on ne le voit pas. Donc ça, on ne sait pas. On ne sait pas non plus quelle est la taille d'un conduit éruptif. Je vous ai montré un exemple, on en voit la trace à la sortie, donc ça c'est n'importe qui est capable de mesurer la bouche éruptive s'il est suffisamment courageux pour y aller. Mais c'est uniquement la taille en sortie. Est-ce que c'est un conduit qui se rétrécit en profondeur, qui s'élargit au contraire? Ça, on n'en sait rien. Et surtout, on ne sait pas si ça reste stable comme ça dans le temps. Lors d'une éruption qui se produit pendant 9 ans, vous imaginez bien que le conduit peut très bien se modifier. Le magma peut très bien arracher des roches autour de lui, et on en a des preuves, donc agrandir son conduit. Et inversement, il peut refroidir au contact des roches froides, et puis donc se rétrécir petit à petit au fur et à mesure que l'éruption se poursuit. Donc la plomberie volcanique, ce n'est pas non plus quelque chose qui est stable dans le temps, ça va évoluer en fonction de quoi et puis comment le détecter. On essaye de trouver des techniques pour répondre à ces questions. Et puis la dernière question qui nous occupe, c'est que l'édifice volcanique lui-même, j'ai dit que l'édifice volcanique, c'est le résultat de tas d'éruptions, donc c'est un empilement plus ou moins stable de coulées, de tas de cendres, de ponces. Évidemment, ce n'est pas très stable, Et donc un édifice volcanique, ça peut s'effondrer, d'abord sous son propre poids, parce que quand vous avez accumulé des tas de choses à la surface, eh bien, ça finit toujours par s'effondrer, il y a des glissements de terrain qui peuvent se produire, et puis aussi ça peut se casser lors d'une éruption. Donc savoir dans quelles conditions vous êtes capable de casser un édifice, eh bien, c'est évidemment important. Pourquoi ? Ben, un édifice, ça représente l'histoire cumulée, donc c'est un volume énorme. Un édifice volcanique, ça fait plusieurs kilomètres de haut, plusieurs dizaines de kilomètres à la base. Si vous faites un glissement de terrain là-dessus, ça vous mobilise une masse considérable de roches, et évidemment avec des dangers considérables aussi pour tout ce qui est autour. Dans quelles conditions un édifice est cassé ? Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Et puis, quels sont les différents modes de cassure d'un édifice ? Parce qu'évidemment, ce ne sera pas la même chose si c'est tout l'édifice qui s'effondre ou si c'est simplement une petite partie qui se met à glisser. Donc voilà les questions actuelles en volcanologie. J'en ai à peu près terminé. Je voulais simplement conclure. C'est-à-dire que la volcanologie, à l'heure actuelle, c'est essentiellement répondre à un certain nombre de questions. Alors les questions, on les pose parce qu'évidemment, on est capable d'observer la nature. Mais pour répondre à ces questions, observer la nature ne suffit plus. Je vous ai montré par exemple que une éruption explosive qui projetait un mélange de gaz et de magma dans l'atmosphère, ça pouvait donner lieu à des coulées pyroclastiques, donc ces coulées denses qui dévalent les pentes d'un volcan, ou bien ça peut donner à une colonne plinienne qui s'élève à des dizaines de kilomètres dans l'atmosphère. Bon, ben ça, la différence entre ces deux éruptions, c'est extrêmement subtil et il n'y a que le calcul qui vous permet de montrer ça. À l'observation, on ne voit pas grand-chose, puis en général, on ne préfère pas trop regarder, on préfère s'enfuir, donc c'est toujours difficile de regarder dans son dos. Mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas estimer avant le calcul. Donc on est obligé de faire un aller-retour entre le calcul, la théorie, et puis l'observation. D'autre part, on est obligé aussi de développer les techniques de mesure qui permettent d'avoir accès aux paramètres essentiels. J'ai parlé de débit massique. Un débit massique, ça ne se mesure pas facilement. Donc il faut avoir les techniques qui permettent de mesurer ça. Et ça, c'est évidemment des techniques qu'on doit déployer. Il n'y a pas beaucoup d'instruments dans le commerce qui vous permettent de mesurer des milliards de kilogrammes par seconde. Ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est les questions auxquelles on doit répondre à l'heure actuelle. La dernière chose, c'est que lorsqu'on étudie un système volcanique, il faut accepter de faire le grand écart entre ce qui se produit à toute petite échelle et ce qui se produit à très grande échelle. Je vous ai montré qu'une éruption explosive, eh bien, c'était des petites bulles de gaz qui éclataient. Bon, ben, ces bulles-là, typiquement, dans les trois quarts des cas, c'est des bulles qui ne font même pas un millimètre de diamètre. Donc la nature même du mécanisme qui fait éclater les bulles, elle se lie à cette échelle-là, au millimètre. Les conséquences, ça se lie par contre sur une colonne éruptive qui va faire des dizaines de kilomètres de haut. Donc il faut être capable de comprendre à la fois des phénomènes à petite échelle et à très très grande échelle. Il faut être capable de faire le passage sans arrêt de petite à grande échelle. Et ça demande donc un type d'analyse qui est complètement différent. Donc voilà où en est la volcanologie à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, parce qu'il y a toujours des éruptions volcaniques qui sont des cas particuliers. Alors l'exemple le plus frappant, c'est l'éruption de Montserrat, qui est l'éruption qui s'est arrêtée, qui a repris tout récemment, qui a affecté une très belle île des Antilles, britannique, à côté de la Guadeloupe. C'est une éruption très très bizarre qu'on n'aurait pas pu prédire auparavant. Alors pourquoi elle était très très bizarre ? Eh bien, c'est une éruption d'abord qui est allée en débit croissant. Elle a commencé tout doucement, et puis avec une espèce de lave extrêmement pâteuse qui sortait du conduit volcanique. Et puis cette lave très pâteuse, bon, d'habitude l'éruption s'arrête parce que c'est très lent, et puis en général on vide un réservoir, donc l'éruption finit par s'arrêter. Là au contraire, c'est allé crescendo. Le débit n'a pas arrêté d'augmenter, et puis ça s'est venu de plus en plus dangereux, de plus en plus explosif. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, on a des hypothèses, mais c'était une séquence, disons, éruptive dont on n'avait pas l'habitude. Donc Montserrat nous a posé une question supplémentaire. Alors c'est à la fois une explication supplémentaire qu'on cherche, mais c'est aussi un symptôme différent du comportement de la plomberie qu'on connaît mal. Donc ce genre d'éruption, c'est riche d'enseignements, parce que ça nous dit, bah, tiens, voilà ici un autre type d'évolution. Est-ce que ce que j'expliquais pour l'éruption d'avant, je suis capable de comprendre cette nouvelle éruption? Et c'est ce test-là que l'on fait avec de nouvelles forme d'éruption qui permet d'être sûr qu'on approche de la réalité. Voilà. Je vous remercie.
Vous nous avez parlé de beaucoup de volcans. Il y a certains noms que vous avez cités, on ne sait pas très bien où ils sont. D'autre part, vous ne nous avez pas parlé des volcans d'Islande, qui sont très connus, je crois du moins, et de ceux d'Afrique où l'on peut descendre, qui sont, je crois, éteints, je pense. Et d'autre part, quel est le type de mesure que vous pouvez faire pour faire des calculs qui sont probablement des calculs un peu difficiles? Quel genre de mesure vous faites sur place? Et alors, une dernière chose, comment pouvez-vous surveiller? On dit qu'on surveille des volcans parce que pour des raisons diverses. Voilà.
Bon, alors pourquoi je ne vous ai pas parlé de tous les volcans? Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a 1000 volcans en activité sur le globe, donc il fallait que je choisisse. Alors, les volcans distants sont très intéressants. Je vous ai montré le volcan Kilauea d'Hawaï, parce que celui-là, il est bien plus régulé, on le connaît bien mieux. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Il y a en Islande des volcans qui ressemblent beaucoup au Kilauea, donc il n'y a rien de particulier à l'Islande. Alors, j'ai choisi un certain nombre de volcans limités, je vous en ai montré un certain nombre, dont certains vous ne connaissiez apparemment pas, mais je vous ai bien dit qu'en fait, il y a un nombre limité de familles de volcans. Donc, vous voyez en Islande ce que vous voyez à Hawaï, par exemple. Donc, il n'y a rien de particulier à l'Islande. Pourquoi aller en Islande plutôt qu'ailleurs? Bon, les volcans d'Afrique sont très intéressants aussi, mais c'est la même chose. Il y a en Afrique la même chose que ce que vous pouvez voir, par exemple, de l'autre côté du Rhin. Vous avez des tas de volcans qui sont en Allemagne, qui sont maintenant anciens, morts certes, mais très beaux, et ils sont exactement analogues à ceux que vous pouvez voir au Kenya, etc. Donc, il n'y a aucune raison de privilégier une région du monde plutôt qu'une autre. Je vous ai choisi un certain nombre d'exemples comme ça. Il fallait que je choisisse parmi 1000 volcans actifs. Il a fallu que je trouve... quelques photos parmi ces exemples-là, j'aurais pu évidemment vous parler des volcans africains ou bien des volcans islandais. Alors vous dites que les volcans africains, on peut descendre dedans. Vous parlez par exemple du Nyiragongo, des choses comme ça. Donc alors ces volcans-là, oui, on peut descendre dedans, mais souvent la descente même dans un volcan, comme je vous l'ai montré, ça vous donne accès à la partie superficielle qui est le cratère d'éruption, donc le cratère qui est excavé par une explosion, ça ne vous donne pas accès à la plomberie volcanique. Quand vous descendez dans le Nyiragongo, vous allez voir un peu ce qui se passe dans un cratère, mais ça ne vous donne pas accès à la plomberie volcanique souterraine. Donc cette plomberie-là, il faut aller la chercher dans des exemples beaucoup plus anciens, un volcan qui a complètement été décapé par l'érosion, d'ailleurs il ne reste plus d'édifice, il faut aller chercher ce qui se produit sous l'édifice. Donc au Nyiragongo, vous descendez dans l'édifice, mais vous ne descendez pas en dessous de l'édifice. Dans le cas du Piton de la Fournaise, vous avez dans l'île de la Réunion, qui est un volcan que l'on connaît bien, qui est tout à fait semblable au Kilauea. Donc lorsque vous étudiez le volcan Piton de la Fournaise, vous pouvez voir que l'ancien volcan, sur lequel d'ailleurs il vient s'adosser, qui s'appelle le Piton des Neiges, il a été décapé aussi par l'érosion. Il y a de gigantesques glissements de terrain qui vous ont éventré complètement l'édifice. Donc on voit très bien dans l'édifice du Piton des Neiges, parce que tout simplement il y a un gigantesque glissement de terrain qui l'a coupé en deux. Donc là aussi, oui, bien sûr, on peut étudier ça, mais là, vous n'avez accès qu'à l'édifice lui-même. Or, la plomberie volcanique, c'est sous l'édifice. Alors, la dernière question que vous aviez, c'était les techniques de surveillance. Alors, la surveillance, oui, un volcan, ça se surveille. Pourquoi? Parce que la lave, elle vient de profondeur. Donc, si on est capable d'avoir des instruments suffisamment fins, eh bien, on va détecter le moment où la lave commence à se mettre en mouvement. Et elle va mettre un certain temps avant d'arriver à la surface. Donc toutes les techniques de surveillance, c'est de commencer à détecter quand est-ce que la lave se met en mouvement. Alors je vous ai montré qu'il y avait deux signes qui ne trompent pas. C'est d'une part les petits séismes. Quand le magma commence à monter, il casse les roches autour de lui. Donc à chaque fois, il envoie un petit signal, ça fait vibrer les roches. Et avec un sismomètre, donc c'est un appareil qui enregistre les mouvements du sol, on l'enregistre. Bon. Et puis aussi, la même fracture, je vous ai montré qu'en bout de fracture, il y avait du gaz. Et ce gaz-là, il finit par s'échapper et vous le recevez à la surface bien avant le magma, parce que le gaz, c'est volatile, ça passe très très vite. Donc vous avez un précurseur gazeux, et si vous êtes capable de reconnaître ce que c'est qu'un gaz volcanique, en général ça sent mauvais, ça sent un peu le soufre, donc vous êtes sûr que les séismes plus le gaz magmatique, ça c'est le signe que le magma s'est mis en mouvement, donc que l'éruption, elle va finir par arriver à la surface et donc faire une éruption. Il y a d'autres techniques de surveillance, mais les deux techniques principales sont celles que je vous ai dit. On détecte par exemple les mouvements du sol. Lorsque le magma force son chemin vers la surface, je vous ai dit qu'il fracturait, mais il déforme un petit peu aussi. Cette déformation-là se mesure. Donc l'édifice volcanique, il est un petit peu déformé. Alors, c'est des déplacements qui se comptent en centimètres, mais c'est mesurable, on le mesure. On enregistre aussi d'autres variations diverses et variées qui, lorsque vous avez toutes ces indications ensemble, il n'y a pas d'autre diagnostic, le magma s'est mis en mouvement et donc l'éruption va arriver. Mais ceci dit, pour arriver à faire ce diagnostic, il faut avoir des appareils dessus, parce que un volcan n'est pas instrumenté, c'est pas sensible en général à l'être humain, donc on ne peut pas détecter ces signes précurseurs suffisamment longtemps à l'avance. Donc il faut que ce volcan soit instrumenté. Alors il y a des cas où il y a des signes précurseurs suffisamment visibles, mais c'est pas toujours vrai. Donc il vaut mieux instrumenter le volcan. Si vous vivez près d'un volcan qui a l'air actif, instrumentez-le.
Madame,
que peut-on penser de l'évolution des caldeiras, comme par exemple à Yellowstone?
Ah ben, on peut penser que quand vous êtes assis sur une caldeira, c'est qu'il y avait un système volcanique actif. Le Yellowstone, à l'heure actuelle, vous savez sans doute que il se produit à l'heure actuelle une résurgence. Le magma qui a fait la grande caldeira du parc de Yellowstone et qui est aussi responsable de... C'est le même magma qui vous chauffe les eaux, qui vous donne tous ces geysers spectaculaires. Eh bien, le magma, il est encore là. Et depuis un certain temps, eh bien, le sol de la caldeira de Yellowstone est en train de se soulever. Donc, il y a du magma qui est en train de monter là-dedans. Alors, il est suffisamment profond à l'heure actuelle pour qu'on ne craigne pas une éruption, mais ça commence à devenir préoccupant.
Étant donné que la Terre se refroidit, est-ce qu'on ne peut pas craindre que, dans une très longue échéance, elle ne devienne un peu comme le crâne de Barthès, parce qu'il n'y a, pas de possibilité de soulèvement tel que les Pyrénées, les Alpes, l'Himalaya, et l'érosion, à ce moment-là, progressivement, au cours des siècles et des milliards de siècles, finira par aplanir la Terre comme une boule.
Ah, c'est sûr, mais c'est certain que la Terre est condamnée parce qu'elle refroidit. Et donc, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'elle ne refroidit pas à partir d'un état initial chaud. La Terre se réchauffe un petit peu, donc c'est une compétition entre son refroidissement et sa capacité de se chauffer. Alors, qu'est-ce qui la chauffe? C'est les éléments radioactifs qu'elle contient. La Terre contient de l'uranium, du thorium, du potassium, sont contenus dans les roches, suffisamment disséminés pour qu'il n'y ait aucune conséquence pour l'être humain, sinon ça se saurait depuis le temps. Mais ces éléments radioactifs se désintègrent et libèrent de l'énergie. Donc l'énergie que dépense la Terre, c'est en partie l'énergie qu'elle produit elle-même. Ceci dit, la désintégration radioactive, c'est une désintégration, donc les éléments se désintègrent. Donc la Terre, tout simplement, est en train de perdre ses sources d'énergie, et c'est plutôt ça qui est limitant. Ce n'est pas le refroidissement, c'est le fait que son uranium, une fois qu'il s'est désintégré, il ne se désintégrera plus. Donc petit à petit, elle est en train de s'appauvrir dans ses éléments moteurs. Bon, les quantités qui sont mises en jeu, peu importe, ce qui compte, c'est les durées de vie de ces éléments radioactifs-là. Le thorium, c'est 14 milliards d'années. Donc le stock de thorium, on l'a à peine touché. Donc on en a encore pour 14 milliards d'années de thorium, c'est bon. L'uranium, c'est plus dangereux. Il y a deux isotopes, mais disons que l'isotope principal, il a une durée de vie de 4 milliards d'années. Donc l'uranium, on commence à avoir des problèmes de stock. Donc vous voyez qu'en ce qui concerne l'énergie, on a encore de quoi faire. Ceci dit, vous savez que ce qui détruira la Terre, ce n'est pas le fait qu'elle va s'arrêter, c'est le fait qu'il arrivera des choses au système solaire auparavant.
Bonjour. Moi, je voudrais vous poser une question sur la fin de votre exposé. J'habite en Guadeloupe. J'ai donc assisté à l'éruption de Montserrat. Et je voudrais savoir si ce mode d'éruption peut se produire au niveau de la Soufrière de la Guadeloupe qui a des signes d'activité actuellement.
Alors oui, vous savez que l'Institut de Physique du Globe que j'ai l'honneur de diriger a un observatoire là-bas, donc on le surveille. Le volcan, depuis un certain temps, donne des signes de recrudescence. Les fumerolles qui sont au sommet ont augmenté de température. La zone qui est affectée par le dégazage magmatique est de plus en plus importante. En ce qui concerne les mesures dont je vous parlais, qui sont les mesures qui sont symptomatiques d'un déplacement de magma, c'est-à-dire la sismicité et puis la déformation, il n'y a rien. Donc pour l'instant, on n'est pas très sûr du diagnostic. Ceci dit, on surveille. Donc la Guadeloupe est en phase, disons, inquiétante. Il y a un peu de fièvre, il n'y a pas encore de boutons. Alors, par contre, on sait que le magma de la Guadeloupe ressemble fort, très fortement au magma de Montserrat. Et donc, ça fait peu d'explosions de style plinien ou quoi que ce soit. Il y en a eu dans le passé, mais très peu. Donc, l'un des scénarios, effectivement, c'est un scénario style Montserrat, c'est-à-dire une éruption qui est assez circonscrite, limitée dans l'espace, mais qui peut durer très longtemps, ce qui pose d'énormes problèmes économiques, mais qui, a priori, n'est pas dévastatrice comme peut l'être une éruption de style plinien.
Comment différencier la sismicité, étant donné qu'on est sur une faille? Et moi, j'ai vu le nombre de séismes depuis le début de l'année. Ils sont quand même assez importants, même si on ne les perçoit pas tous.
Il y a des tas de séismes qui sont d'origine volcanique, qui ne sont pas sur la faille. Donc, ils ne sont pas sur la faille, ils ne sont pas associés à la faille. Donc, c'est tout simplement, on les localise. Un séisme, ce n'est pas simplement, tiens, ça bouge. Ça se fait comme un système de radiogonométrie. Vous avez plusieurs stations sur un volcan. Et donc, en fonction, vous avez les temps d'arrivée. Et avec les temps d'arrivée, vous allez resituer la source. Donc, ce n'est pas très précis. Ça dépend du nombre d'appareils que vous mettez. Mais ça permet de savoir si c'est oui ou non un séisme sur un accident géologique comme une faille ou si c'est associé au volcan. on peut faire beaucoup mieux, parce que les séismes volcaniques, ce n'est pas n'importe quoi. Un séisme en fracturation, ce n'est pas la même chose qu'un séisme sur une faille, qui est un séisme en coulissage, si vous voulez. Donc ça ne donne pas le même signal. Donc on est aussi capable de reconnaître à la nature même du signal. Il y a séisme et séisme. Un séisme volcanique, ce n'est pas un séisme qu'on appelle tectonique, c'est un séisme de faille. Donc on est capable de dire, à l'heure actuelle, il y a des séismes volcaniques, mais il y en a toujours eu. Hein. À la Soufrière, c'est comme tout volcan actif, ça n'arrête pas de casser un petit peu, c'est jamais très stable. Donc il y a une activité de fond, et tout le travail du volcanologue, c'est de savoir ce qui sort du bruit de fond. Alors vous avez un système qui est quand même potentiellement instable, à partir de quand il part pour faire une éruption, alors qu'il émet sans arrêt des petits bruits. Il faut savoir faire la différence entre son activité normale et puis une activité anormale qui annonce une éruption.
Oui, il y avait une question là.
Bonsoir monsieur. Excusez-moi de vous poser une question très naïve de la part d'un profane en question. Quand on parle du volcan, on pense le plus souvent le volcan en éruption, ce qui fait peur. Mais comme vous avez parlé, le genre humain a coexisté depuis Pline avec le volcan. Donc, il pourrait avoir une utilité de volcan comme le vent, quand il souffle violemment, ça porte dégâts. Mais quand on peut, comment dire, souffle naturellement, on peut en servir pour produire énergie éolienne. Donc, je pense que le volcan peut être utile pour la vie humaine. Selon Volkalov, quelle est l'utilité volcan ? Merci.
Alors oui, les volcans sont très utiles. D'abord parce que sans volcans, la Terre serait une planète morte. Donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il n'y aura plus de relief, il n'y aurait plus rien. Un volcan, c'est un symptôme d'une activité profonde. Donc tant qu'il y a du volcan, c'est que la Terre bouge encore. On aura des reliefs, on aura des vents, on aura des cycles saisonniers, on aura une planète vivante. À plus courte échelle de temps, un volcan, c'est très utile parce que pour les hommes, parce que c'est fertile. Il ne nous a pas échappé que l'Italie est un territoire volcanique. Jusqu'à preuve du contraire, l'Italie, il y a quelques milliers d'années, eh bien, des civilisations s'y sont développées. Les Étrusques, par exemple, ont développé une civilisation à partir de l'agriculture. Pourquoi ils ont pu développer ça ? Parce que les territoires du Latium sont des territoires extrêmement riches. Les éruptions volcaniques vous renouvellent votre stock d'éléments de différentes sortes. En plus, vous les mettez dans un milieu mal consolidé, donc dans lequel l'eau circule bien, et ça, c'est extrêmement fertile. Donc, le volcanologue vous dira, la civilisation étrusque, c'est grâce au volcan. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs, mais moi, je suis volcanologue, donc je ne dirai que ça. On a d'autres exemples tout aussi frappants. Hein. En Amérique du Nord, il y a des civilisations qui se sont développées extrêmement brutalement après des éruptions volcaniques. Donc, les populations indiennes étaient nomades, parce que, un nomade, c'est parce qu'il n'a pas réussi à trouver la nourriture sur place. Il est obligé d'aller la chercher sur de vastes territoires, donc de se déplacer constamment en fonction des saisons et puis en fonction de là où il y a de la nourriture. Eh bien, on a remarqué que ces populations qui étaient nomades se sont arrêtées brutalement et ont adopté un mode de vie sédentaire après certaines éruptions. Parce que là, le sol avait été recouvert de cendres volcaniques très fertiles, et donc ils ont pu développer même momentanément une agriculture et donc se sédentariser. Ce qui est tout aussi fascinant, c'est que ce sont des éruptions très rares, donc très rapidement, la richesse des sols volcaniques s'est épuisée et ils ont été obligés de reprendre un mode de vie nomade. Donc là, on a un exemple très frappant de la relation qu'il y a entre le développement de l'activité humaine et puis l'histoire du volcan. Le volcan nous sert, vous savez que si vous allez à Pézenas, près de Pézenas, il y avait des Grecs là-bas qui exploitaient l'obsidienne, donc c'était ça. Et puis maintenant, près de Pézenas, vous avez beaucoup de carriers qui exploitent les dépôts pyroclastiques des volcans qui ont affecté la région il y a peut-être un certain temps, mais dont les dépôts sont là, et c'était extrêmement utile pour faire du ciment. Les pouzzolanes, c'est des choses qui... Donc on se sert des volcans, ils sont même tout à fait essentiels dans certains cas.
Oui, monsieur, là-bas.
S'il vous plaît, ici, l'ensemble des tuyauteries, de ce que vous appelez les tuyauteries des volcans, vous paraît-il suivre la dérive des continents, ou bien le fait que la profondeur des réservoirs est très enfouie dans le sol, à des profondeurs qui atteignent peut-être le manteau, provoque-t-il le déplacement des éruptions volcaniques par rapport à des dérives de continents ? Merci.
Voilà. Alors, votre question, il y a plusieurs aspects pour y répondre. Bon, vous connaissez peut-être l'exemple des chapelets d'îles d'Hawaï, ou même... lorsque vous avez un édifice volcanique, c'est qu'il y a un mouvement en dessous. Donc, vous allez créer un système de plomberie dans la partie superficielle qui se déplace par rapport au reste. Donc, si vous avez déplacé suffisamment cette partie superficielle, vous avez coupé l'édifice volcanique de sa source et ça finira par s'arrêter. Mais vous avez quand même stocké près de la surface un volume de magma qui va continuer de cracher même lorsque vous êtes déplacé loin de votre source. Donc, il y a une sorte d'inertie du système. Vous avez injecté du magma et puis vous allez continuer à le faire cracher alors que la source, vous en êtes éloigné. Donc, il y a une inertie. Donc, ça ne suit pas fidèlement la technique des plaques. Mais ça, ce sont des volcans qui sont des volcans essentiellement océaniques parce que les plaques, c'est des plaques essentiellement océaniques. Il y a beaucoup de volcans continentaux. Le Mont Saint-Hélène en est l'un des exemples. Le Mont Saint-Hélène est un volcan qui est sur la chaîne dite des Cascades, sur l'ouest des États-Unis. C'est en plein milieu d'un continent et il n'y a pas de déplacement marqué par rapport à ça. Alors, ces volcans-là ont une durée de vie finie, pour des raisons d'ailleurs que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'on croit comprendre, parce que les sources de magma en profondeur, en fait, elles finissent par monter. Et une fois qu'il y a une canalisation qui s'est créée, ça canalise le magma pendant un certain temps, et puis ça finit par épuiser la source. Et c'est une autre canalisation qui se crée, ça réemprunte rarement la même canalisation parce que le magma l'occupe et est figé et c'est fini. Donc, cette explication n'est pas très convaincante, il faudrait que je vous parle d'instabilité. Là, dans cette région-là, la durée de vie d'un volcan n'est absolument pas liée au mouvement profond. Un volcan comme le Mont Sainte-Hélène, ça dure typiquement 200-300 000 ans et puis ça renaît à côté. Le Mont Sainte-Hélène lui-même, d'ailleurs, est le successeur de deux autres volcans bien connus qui sont situés à quelques kilomètres de lui-même. Donc là, l'activité volcanique, elle se déplace un petit peu, mais ça reste dans la même région, parce qu'il n'y a pas les mouvements profondeurs, ici, sont stables par rapport à la côte américaine.
Oui, nous allons prendre une toute dernière question, là-haut, monsieur.
Je voulais savoir si vous avez des informations sur le volcanisme en Auvergne, et notamment au lac Pavin, les fumerolles qu'on a vues récemment.
Ah ben, faut que vous sachiez que l'Auvergne est un site qu'on considère comme actif, donc le volcanisme en Auvergne... Le lac Pavin est la dernière éruption que l'on connaît, elle a quelques milliers d'années seulement. Quelques milliers d'années, c'est négligeable à l'histoire de... Je vous ai parlé de l'histoire du Mont Sainte-Hélène, à l'heure actuelle, il a 30 000 ans, le Mont Sainte-Hélène. Ces analogues anciens ont duré plus de 100, 200, 300 000 ans. On sait aussi que dans des volcans comme ça, même s'ils ne sont pas tout à fait analogues à ceux du Massif central, il peut y avoir des périodes de repos qui peuvent durer plus de 10 000 ans. Donc le lac Pavin, il y a quelques milliers d'années, c'est inférieur aux durées de repos maximum qu'on connaît. Donc le lac Pavin, c'est pas suffisamment vieux pour qu'on considère que ce soit arrêté. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le Massif central? Comme on considère qu'il est encore actif, on se méfie. Donc on dispose des appareils et le Massif central est surveillé. L'observatoire de Clermont-Ferrand est un observatoire dont la tâche est de vérifier que rien ne se passe dans le Massif central au niveau volcanique. Donc c'est considéré comme actif et donc c'est surveillé. Alors, je vous rassure, il y a du magma en profondeur, donc on a quelque chose à surveiller, mais si ça se met à bouger, on le saura.